en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Canal Académie a l'honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Simone Veil. Madame Veil, bonjour.
Bonjour.
Ce sont vos premiers mois à l'Académie. Le 9 novembre dernier, invité par Maurice Druon et François Jacob, vous avez donc présenté votre candidature à l'Académie française au fauteuil de Pierre Messmer. Et le 20 novembre 2008, vous avez été élu au premier tour de scrutin par 22 voix sur 29 et vous occupez désormais le 13e fauteuil à l'Académie française en remplacement de l'ancien Premier ministre Pierre Messmer, décédé en août 2007. Alors, donc, vous retrouvez ainsi sous la coupole. Quel sentiment, quelle réaction au fond de vous, cette élection ?
Je dois dire que c'est une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé. J'ai eu une vie très, très diversifiée dans ces occupations. Ça s'est toujours un peu trouvé comme ça. Mais en même temps, c'était dans une certaine ligne qui est restée toujours sous-jacente, c'est-à-dire le fait que j'étais magistrat. J'avais choisi cette carrière parce que j'avais très envie d'être avocate depuis que j'étais jeune. Et quand j'ai dit à mon mari que j'allais faire du droit et que je voulais être avocate, il m'a dit « il n'en est pas question ». Parce qu'il trouvait qu'on fréquentait des milieux plus ou moins bien. Maintenant, nous avons deux fils avocats. Alors, il les servit, mais pour les garçons, ce n'est pas pareil. Alors, j'ai dit « bon, ben, tu ne veux pas, ça ne fait rien ».
Et vous rapportez cet échange entre vous et votre mari, Antoine Veil, dans votre livre « Une vie » paru chez Stock. Un livre dont je propose aux auditeurs de Canal Académie la lecture de quelques lignes. Antoine suivait les cours de l'ENA lorsque j'ai mis au monde notre troisième fils, Pierre-François. Le moment était venu d'annoncer à mon mari « je vais m'inscrire au barreau ». « Il n'en est pas question », a-t-il répondu à ma vive surprise. « Je ne me suis pas laissé faire. Comment ? Il a toujours été entendu que j'attendrais que tu sois sur tes rails et qu'alors je travaillerai. Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu es à l'ENA, tout va bien pour toi. Rien ne s'oppose donc à ce que je travaille. » Je ne m'attendais pas à une réaction aussi négative de sa part. Comme jadis mon propre père avec maman, je découvrais que mon mari était gêné de me voir entrer dans la vie professionnelle. En outre, attaché à la rigueur et la force du droit, il ne tenait pas les gens du barreau en grande estime. Là où je voyais considération envers les accusés et les victimes, il ne trouvait que versatilité et inféodation à la cause de clients capables de payer. Je crois que tout cela le dérangeait. La justice à la rigueur, mais sans compromis. On ne fréquente pas des avocats. Leur métier n'est pas fait pour les femmes. Le débat a été rude, mais nous avons fini par trouver un compromis accepté de part et d'autre. Par chance, il avait rencontré à travers ses différentes relations politiques un haut magistrat qui lui avait affirmé « Les femmes ont désormais leur place au sein de la magistrature. Simone devrait y réfléchir. » Et en effet, depuis 1946, les femmes étaient admises à s'inscrire au concours de la magistrature. Tel a donc été notre terrain d'entente. J'abandonnais ma vocation d'avocat au profit d'une carrière de magistrat, sans doute moins prenante, et lui acceptait que je ne reste pas à la maison pour élever les enfants et préparer le dîner.
Moi, au fond, ce qui m'intéressait beaucoup, parce qu'il y avait encore très peu de temps qui avait passé depuis mon retour de déportation, c'est tout ce qui concernait les gens détenus, même si c'était des gens qui étaient détenus en prison pour des faits qui n'avaient rien à voir avec ce qu'avait été la déportation. Les prisons m'interrogeaient. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul cas. À l'époque, à l'administration pénitentiaire, il y avait un certain nombre de gens qui avaient justement été soit déportés, soit simplement prisonniers de guerre, et qui, de ce fait, s'intéressaient à ce qui se passait dans les prisons. Je voulais expliquer ça pour dire que ce qui a marqué dès le départ ma vie, c'est justement d'avoir essayé de faire les choses pour ceux auxquels on ne pense pas.
Vous avez passé cette année de 1957 à 64 à la direction de l'administration pénitentiaire. Et page 142 de votre livre de souvenirs, Une vie, publié chez Stock, vous indiquez qu'au début, vous pensiez que l'état des prisons était dû à une surpopulation pénale momentanée. Je me trompais, écrivez-vous. Si de nombreuses personnes avaient été arrêtées après la libération, la plupart, 10 ans plus tard, avaient été libérées. La situation carcérale ne s'expliquait donc pas par une conjoncture particulière. Elle résultait bel et bien de méconnaissances et d'incurie solidement incrustées dans les mœurs administratives, au point que, visitant ainsi les prisons, j'avais parfois le sentiment de plonger dans le Moyen-Âge. Ça a été certainement une période lourde à assumer.
Oui, sûrement. En même temps, nous avions un sous-directeur qui était quelqu'un de tout à fait remarquable et on essayait de faire le maximum avec le peu que nous avions, d'essayer d'humaniser les prisons. Mais j'ai des souvenirs horribles. Alors, quelques années après, quand nous prenions des vacances avec les enfants qui étaient encore petits, on était en voiture souvent. Et je me souviens très bien que la prison de Nîmes était une prison épouvantable. Très grande prison qui était pour les longues peines. Et la situation était absolument dramatique. Et pendant ce temps-là, les enfants et mon mari m'attendaient. On allait en Espagne, on profitait de ça. L'administration pénitentiaire n'avait même pas d'argent pour qu'on puisse aller visiter les prisons, alors que c'était nous qui en avions la charge. Alors, je crois qu'en même temps, tous ceux qui étaient à l'administration pénitentiaire avaient eu plus ou moins un contact avec ce qu'était l'administration ou la déportation. Et de ce fait, on essayait vraiment de faire le maximum.
C'était au niveau de l'ordre du matériel, ce qui vous révoltait le plus, ce que vous souhaitiez changer le plus, ou au niveau de l'accompagnement humain?
C'était vraiment déjà les établissements eux-mêmes qui était épouvantable. Alors maintenant, il y a encore plus de détenus. Je crois qu'on en parle souvent. On a fait d'ailleurs, c'était tellement lamentable qu'on a fait un certain nombre de prisons, mais que ça ne sont pas suffisantes parce que le nombre des gens détenus est beaucoup plus important.
Et la solution serait où?
La solution, c'est déjà d'avoir des établissements qui sont convenables avec des possibilités de tenir compte de la situation des gens, de certains, si on les laisse tout seuls, ils risquent de suicider, d'autres au contraire ne supportent pas. Donc avoir une présence beaucoup plus importante. Je dois dire qu'à l'époque, d'ailleurs, il y avait eu un très grand effort parce que nous étions assez nombreux à avoir connu ce qu'était la détention, ce qu'était d'être dans des situations dramatiques, encore beaucoup plus dramatiques, mais ça nous avait incité aussi à ne pas laisser se faire un certain nombre de problèmes.
Et aujourd'hui se pose beaucoup la question de la réinsertion. Préparer une réinsertion correcte, parce que cette détention, c'est une vie qui est mise entre parenthèses.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. En tout cas, dans cette période, malgré le fait que nous ayons peu d'argent, on a tout de même, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été mises en place. Mais que le nombre des détenus ayant beaucoup augmenté, ça a été de plus en plus difficile de pouvoir prendre en charge et de réaliser ce que nous avions à l'époque souhaité et qui était très fort chez la plupart d'entre nous. Alors je pense que maintenant, je crois que les choses ont changé. D'ailleurs, c'est normal, il n'y a plus ces gens qui avaient vécu eux-mêmes la prison, même si c'était pour d'autres causes, et nous étions sensibles. Et donc, il faut, je pense, essayer de trouver un moyen pour que les détenus ne sortent pas des prisons pire que quand ils étaient entrés.
Donc, une période très intense et un investissement personnel, professionnel de votre part, que votre famille, je crois, a vécu un peu difficilement.
Oui, j'en parlais pas beaucoup. Ça les énervait un peu. Puis ça, si on s'arrêtait comme ça pendant les vacances et autres. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je m'en suis tellement occupée que ça lassait, et je comprends ça d'ailleurs, ma famille. Et notamment, d'ailleurs, je suis allée en Algérie, où il y avait énormément de gens qui étaient détenus, parce que c'était la guerre entre ceux qui voulaient qu'on reste en Algérie et ceux qui cherchaient à nous en chasser. À ce moment-là, j'ai visité énormément de prisons, pratiquement toutes les prisons qu'il y avait en Algérie, et je suis rentrée épouvantée par les conditions dans lesquelles les détenus étaient gardés. Je crois que ça m'a beaucoup marquée. Et d'ailleurs, je dirais que quand j'ai été en Algérie d'une façon générale, j'ai été très frappée par une situation qu'on essayait de sauvegarder. Et je crois que quand le général de Gaulle a dit « Français, je vous ai compris » à propos de l'Algérie, ça a été un peu une équivoque. Moi, je savais par un ami que qu'il connaissait bien qu'en réalité, ce qu'il voulait, c'était arriver à mettre un terme à ce conflit qui était un conflit dramatique. Mais les gens en discutaient. Chacun avait voulu comprendre comme il le souhaitait. Et pour ma part, pour y avoir été souvent, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et j'ai un souvenir comme ça d'avoir pratiquement visité toutes les prisons. Certaines étaient vivables, mais dans d'autres, bon, c'était la guerre, c'était la guerre. J'ai souvenir à Philippeville d'un directeur de prison. Je regardais comment les détenus étaient traités. Et il m'a dit, oh, ne vous inquiétez pas, la guillotine est toujours prête. Si vous voulez que je vous la montre, c'est possible. Voilà un peu quel était, dans certains cas, le climat qu'il pouvait y avoir, notamment dans les prisons.
C'est quelque chose de lourd à vivre parce que les solutions sont devant nous, peut-être, un jour, mais le drame humain est là et ce qui est vécu est là. Et on se sent à ce moment-là impuissante, quelque part.
Oui, d'abord, on se sent impuissant parce que l'argent, on ne l'a pas souvent, on ne se fait pas comprendre. Mais enfin, moi, je dois dire que j'ai tout de même obtenu, j'étais très inquiète de la situation d'un certain nombre de détenus et j'avais très peur qu'un jour, on aille dans les prisons, qu'on les vide et qu'on tue un certain nombre de gens. C'était d'ailleurs réciproque, la situation était des deux côtés très, très mauvaise. Mais dans cette période où le général de Gaulle avait parlé d'évolution, on avait suspendu toutes les peines de mort. Heureusement, il y en avait énormément. On a en fait fait partir tous ces détenus, enfin j'ai insisté, parce que je pensais qu'ils craignaient beaucoup d'être assassinés, on les a ramenés en France. Mais quand on parle de ces horreurs, il faut bien dire que des deux côtés, on ne savait plus où on en était. Mais sûrement, dans l'idée du général de Gaulle, il y avait tout de suite eu l'idée qu'il fallait aller vers la paix, mais qu'il fallait prendre le temps.
Vous écrivez, page 394 de votre livre, « La Shoah ne se résume pas à Auschwitz, elle a couvert de sang tout le continent européen ». Processus de déshumanisation mené à son terme, elle inspire une réflexion inépuisable sur la conscience et la dignité des hommes, car le pire est toujours possible. Et vous continuez en nous expliquant, alors que nous avions fait le vœu, si souvent exprimé du « plus jamais ça », nos mises en garde sont restées vaines. Massacre du Cambodge, c'est l'Afrique qui depuis plus de 10 ans paie le plus lourd tribut, à la folie génocidaire, alors vous parlez du Rwanda, Darfour, un bilan tragique, 200 000 morts, 2 millions de réfugiés chassés de chez eux. Nous le savons, mais comment faire? Comment intervenir? Comment mettre fin à ces barbaries? Je m'interroge sur ce qu'il est possible de faire pour arrêter ces crimes, ces violences, avec ces déplacements dramatiques de population que cela entraîne. Donc vous posez la question par rapport à cette barbarie. Nous venons d'évoquer l'univers carcéral. Là, on passe au génocide. L'humanité connaît, siècle après siècle, après chaque vague de prise de conscience et de décision du plus jamais ça, et on voit que incessamment tout recommence.
Oui, moi je suis peut-être un peu moins pessimiste que je ne l'ai laissé paraître dans cette conclusion. C'est parce qu'il faut éveiller les gens et les maintenir en état. Je pense tout de même que d'abord les grands conflits ont tout de même cessé pour la plupart. Ça reste marginal et par des gens qui sont des marginaux. À cet égard, par exemple, pour moi, ce qui a toujours été un vœu que j'ai fait très profondément, c'était qu'on se réconcilie avec les Allemands, parce qu'au fond, s'agissant de l'Europe, ce sont ces conflits entre Français et Allemands qui n'ont cessé pendant des siècles même de faire que nous avons connu la guerre de 14. Ensuite, moi, je me souviens très bien, mes parents se disputaient toujours à ce sujet parce que ma mère trouvait qu'on aurait dû chercher, après la guerre, un accord avec les Allemands, ce que souhaitaient un certain nombre de Français, et enfin, de grands personnages. Et que mon père disait, on ne peut rien en faire, il avait été prisonnier, il faut dire, pendant toute la guerre de 14, et qu'il était férocement anti-allemand. Et moi, je dois dire que même au moment où je suis rentrée de déportation, eh bien, un de mes plus grands souhaits, c'était justement que les Allemands aient un régime démocratique, que tout ce qui avait été fait par les nazis, tout ça, soit répudié complètement et qu'on puisse effectivement créer l'Europe. J'ai toujours été une Européenne convaincue dès le départ. Je me suis mariée très, très vite après mon retour de déportation et mon mari avait tout à fait les mêmes idées. Nous avons toujours été vraiment des militants de l'Europe, d'ailleurs à tel point que nous avons même accepté de vivre en zone américaine d'ailleurs, puisque c'est encore l'occupation. Mais nous avons vécu en Allemagne, à Wiesbaden. Et nos enfants, en tout petit, étaient à l'école, il y en avait deux à l'époque, et ils allaient à l'école allemande et apprenaient et parlaient comme des petits Allemands. Ils ont tout oublié, naturellement, mais enfin, c'est pour dire que c'était pour nous la seule solution pour l'avenir. Que sans ça, on repartait dans des conflits indéfinis. Je dis ça à propos de l'Europe, qui est maintenant tout de même, après la chute du mur de Berlin, qui a été quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, moi, j'en ai un souvenir très précis, parce que la veille de la chute du mur, j'étais pour une réunion européenne à Barcelone. Il y avait à la fois un certain nombre de gens qui étaient venus du Parlement européen, et en même temps, on avait invité un certain nombre de gens d'Afrique, parce qu'à ce moment-là, les Africains étaient très associés à ce qui se passait en Europe. Et on est venu nous apporter un papier en disant « Demain, le mur tombe ». Et quand on a pris ce papier et qu'on l'a lu, ça a été tout à fait extraordinaire, parce que tous les Européens qui étaient là ont poussé des cris de joie. Enfin, c'était une sorte de folie. Et qu'au contraire, mais à la seconde même, les Africains ont compris qu'au fond, on se tournerait vers une Europe qui était encore très pauvre et très malheureuse, et qu'on les oublierait. C'est exactement ce qui s'est passé, mais c'est extraordinaire, parce que moi, je m'en suis souvenue comme ça. Et puis, je suis rentrée le soir même à Paris. Il y avait, je crois, quelques journalistes qui avaient frété un petit avion et qui nous ont invités pour aller à... Bon, donc, on a vu tomber le mur de Berlin. Ça reste des souvenirs tout de même très, très extraordinaires. Et ensuite, je crois que nous avons toujours été des militants importants de l'Europe. Et pour moi, ça constitue une des bases très importantes de mes vœux. Alors, je suis moins pessimiste souvent qu'on l'est, là, je l'ai dit dans ce livre. Tout de même, quand on regarde dans le monde en général, il y a tout de même beaucoup moins... D'abord, déjà, le fait que l'Europe soit, ne songe plus à la guerre, à aucune guerre entre nous. Moi, par exemple, ne serait-ce que pour justement aller le plus loin possible dans une véritable intégration de l'Europe, j'ai souhaité, dès que ça a été possible, donc dès qu'il y a eu le chute du mur de Berlin, de le plus vite possible, pouvoir associer à l'Europe et faire entrer dans l'Europe ceux qui y étaient. Alors, je sais qu'il y a des gens qui le discutent beaucoup et qui disent « mais ils n'avaient pas les moyens, on les entretient ». Je dis « moi, ce n'est pas ça que je trouve, c'est que je trouve qu'en fait, quand il y a eu la fin de la guerre, on les a laissés tomber complètement et on ne s'est pas occupé d'eux, on les a livrés à l'Union soviétique, comme ça ».
L'Europe jusqu'à la Turquie ?
Non, ce n'est pas du tout par hostilité vis-à-vis de la Turquie, mais il faut dire que ça n'est pas l'Europe. Je crois qu'il faut accepter que ce soit comme ça, en les associant à un certain nombre de choses. Je veux dire qu'en ce moment, avec les problèmes, par exemple, qu'il y a ces jours-ci, avec les femmes qui sont voilées complètement, et ce qui est tout à fait contraire à nos traditions, parce que c'est une façon vraiment d'expulser les femmes en dehors de la société. Et pour ma part, c'est une chose importante de ne pas accepter que ces femmes restent des traditions pour lesquelles un certain nombre de femmes en Turquie sont alliées, mais d'autres pas du tout.
Alors, justement, par rapport à cette condition féminine, dans certains articles, vous vous annoncez comme franchement assez déçue, même si la condition des Françaises n'est pas la pire d'Europe, dites-vous, mais des femmes trop peu nombreuses à l'ENA, on n'applique pas la parité, ni dans les prud'hommes, ni dans les conseils d'administration, les rémunérations non plus ne suivent pas. Donc, il faudrait peut-être une petite relance à cette condition féminine, qu'en pensez-vous ?
Oui, moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour les femmes. C'est d'ailleurs ce qu'elles pensent elles-mêmes en général. Et alors, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sacrifient soit la maternité, soit parviennent à des solutions, mais quand on regarde absolument toutes les statistiques sur les fonctions qu'exercent les femmes par rapport aux hommes, il y a encore beaucoup à faire. Je sais bien que c'est le cas dans beaucoup de pays européens encore, mais là, je trouve qu'il faut qu'il y ait entre les femmes une très grande unité, une très grande, je dirais, un désir marqué de vouloir nous aider entre nous. On en a vu ce qui s'est passé lorsque un premier ministre a renvoyé du jour au lendemain un certain nombre de femmes. Immédiatement, nous avons réagi et nous avons décidé d'avoir un certain nombre de demandes qui ont été plus ou moins acceptées. C'est encore loin. Et moi, je vois dans les entreprises que les femmes ont toujours plus de difficultés, même si elles travaillent autant, même si elles apportent autant. Il y a des discriminations qui restent importantes.
C'est tout un long développement, c'est un processus qui a 70 ans, donc il faut lui laisser le temps de
mûrir. Il faut lui laisser le temps, oui. Enfin, vous savez, moi je me souviens très bien, il y a un moment, c'était dans les années 65, quelque chose comme ça, la vie économique demandait plus de travailleurs. Et je me souviens très bien qu'on avait mis en place à l'époque, on m'avait consulté d'ailleurs, comment faire pour que les femmes travaillent davantage. Enfin, s'intéressent davantage au travail et entrent dans la vie
professionnelle
et autres. Et c'est tout à fait extraordinaire de voir, je l'avais dit d'ailleurs à cette époque-là, quand on a besoin des femmes, on essaye de les appâter, on essaye de les faire venir dans des bonnes conditions, et puis dès que ça va mieux, on les renvoie. Ça, c'était exactement le schéma qui avait été fait. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur ces questions à un moment, et ça m'avait d'ailleurs beaucoup intéressée, mais j'avais vraiment été très, très choquée de la façon dont les femmes étaient utilisées. Et après, quand ça a été moins bien, on les a renvoyées comme ça, absolument, sans s'occuper de ce qu'elles devenaient.
Et lorsqu'en période de chômage, vous savez, la formule, ben oui, mais les femmes arrivant sur le marché du travail prennent la place des hommes. Vous avez dû souvent entendre cette formule.
Oui, beaucoup. Alors, je dois dire quand aujourd'hui, ce qui se passe, beaucoup de femmes travaillent, mais elles cherchent d'ailleurs quelquefois à travailler à temps partiel, ce qui est toujours un peu difficile. Elles ont beaucoup plus de difficultés à trouver l'équivalence de ce qu'ont les hommes. Et il y a surtout un problème un peu pour les femmes, c'est que les couples vivent beaucoup plus séparés qu'ils n'étaient. Donc les enfants, quelquefois le père s'occupe aussi des enfants, ou en tout cas l'entretien pour partie, mais ça pose vraiment pour les enfants des situations quelquefois vraiment difficiles. Et ce sont toujours les femmes qui doivent se débrouiller, parce que tout de même, dans la mesure où les hommes ne s'en occupent pas, ils ne donnent pas non plus pour l'enfant qu'ils ont eu les moyens nécessaires pour élever les enfants.
C'est une situation auquel le politique doit s'attacher pour trouver structure.
Je ne crois pas que ce soit le politique. Je crois que c'est en fait ce que la société elle-même génère et la façon, les articles qu'on lit là-dessus. Je suis quelquefois très, très frappée par le désintérêt que peuvent avoir certains parents. Quelquefois, c'est la mère, d'ailleurs. C'est beaucoup plus rare. Mais sans ça, les pères, quand ils se... D'abord, beaucoup de couples ne se marient pas. Et quand ils sont avec une autre femme, eh bien, et qu'ils ont d'autres enfants, les enfants, pratiquement, sont privés de père. Quelquefois, c'est la mère. Mais enfin, la vie est devenue beaucoup plus compliquée sur ce plan-là. Et en même temps, on constate que c'est en France qui a le plus d'enfants aujourd'hui. Je crois que plus qu'en Irlande, ce qui est tout de même extraordinaire. Et moi, je dois dire que très vite, au moment où il y a eu la loi sur l'IVG que j'ai soutenue et que j'avais présentée, le président de la République de l'époque m'avait dit « il faut faire maintenant quelque chose pour la famille ». Et j'étais tout à fait de son avis. Et c'était juste quand les décisions étaient prises, au moment où la loi était discutée, j'ai demandé un jour, la veille de Noël, je demande à tous les gens, je demande à l'huissier qui était là dans le truc, les gens de mon cabinet, etc. Et je demande à tous, qu'est-ce que vous faites ce soir ? Et bien tous, ils étaient en famille. C'est-à-dire que le 1er janvier, c'était la fête, mais l'autre, c'était la fête religieuse ou pas, mais c'était Noël, on le fêtait en famille. Et donc, je n'ai pas été du tout étonnée quand on montre qu'aujourd'hui encore, la famille française, même si elle n'est pas mariée, en définitive, elle reste quelque chose de très très important.
Alors justement, vous évoquiez il y a un instant votre intervention dans la vie politique pour soutenir la proposition d'établir l'accès à l'IVG pour toute femme en France. Et vous disiez, à l'occasion de cette présentation au gouvernement de votre proposition, « Je le dis avec toute ma conviction », écrivez-vous dans votre livre de souvenirs, « l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ?» Donc les limites étaient bien fixées par rapport à l'IVG.
Oui, mais vous savez, à l'époque, on était encore très marqués, et c'est pour ça que la loi est intervenue, sur le fait qu'il y avait chaque année au moins 300 ou 400 femmes qui mouraient parce qu'elles avaient voulu s'avorter elles-mêmes ou qu'elles trouvaient des femmes pour le faire. Et d'autre part, parce que c'était souvent très injuste, parce qu'en fait, on pouvait le faire en Angleterre, on pouvait aller aux Pays-Bas, on pouvait aller en Suisse, pour toutes celles qui avaient de l'argent, et on pouvait même trouver un médecin en France pour le faire.
C'était une sorte d'hypocrisie.
Voilà, donc c'était une énorme hypocrisie. Et un certain nombre de femmes mouraient dans des conditions très dramatiques parce qu'elles acceptaient n'importe qui, quelqu'un dans le quartier qui était connu, qui pouvait le faire, mais qui en fait était tout à fait incapable de le faire. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, ce sont des médecins qui m'avaient invité pour en parler et pour dire, vous savez, pour nous, nous étions internes à l'époque et c'était épouvantable parce qu'on voyait des femmes arriver dans des situations où quelquefois on pouvait faire quelque chose, mais très souvent, on ne pouvait rien faire. Donc, je pense que là-dessus, les choses ont beaucoup évolué et que c'est une chose qui est acceptée. Il faut dire aussi qu'en matière de contraception, on a fait beaucoup de progrès et que la loi sur la contraception avait été votée dans de très bonnes conditions.
Ça a été une grande avancée pour la condition de la femme, une libération par rapport à,
oui,
à ces grossesses des fois non désirées.
Oui, et bien alors surtout, si vous voulez, il faut se mettre dans l'état d'esprit de l'époque, c'est qu'au fond, une femme qui avait un enfant sans être mariée, c'était pour elle très très lourd. Il y a eu des exemples comme ça, de jeunes femmes qui se sont suicidées parce qu'elles n'osaient pas dire à leur famille qu'elles attendaient un enfant. Donc si vous voulez, on était dans un contexte qui était tout de même un contexte très lourd. On était obligé de faire quelque chose, on ne pouvait pas laisser les choses continuer, d'autant qu'il y avait des associations de femmes qui s'étaient organisées, qui d'ailleurs le faisaient avec des médecins qui les aidaient, qui en réalité de plus en plus s'étaient substituées à ce que l'État aurait dû faire, c'était sa responsabilité. Et je me souviens qu'un jour quelqu'un m'a dit, vous arriverez, je crois que c'est Michel Poniatowski, quand il m'a passé les pouvoirs au ministère de la Santé, qui m'a dit, il faut aller vite, sans ça un jour vous arriverez dans votre bureau et il y aura un groupe de femmes pour vous obliger à le faire, qui est en train de faire un avortement. Donc, si vous voulez, il y avait une sorte tout de même, même à droite, un certain nombre de gens qui l'acceptaient.
Évoquait la famille, ce sens de la famille, vous l'avez toujours eu, malgré les épreuves de vos premières années.
Oui, je dirais qu'au contraire, d'avoir une famille, c'était ce qui vous permettait de survivre. Nous nous sommes mariés très très jeunes, mon mari et moi. Nous faisions tous les deux nos études, nous sommes connus dans la première année où nous étions à la fois à Sciences Po et dans le droit. J'avais la chance d'avoir des oncles et tantes qui m'avaient accueilli autour des déportations. Et on était tous les deux étudiants et on a eu des enfants très jeunes. Très jeunes et aujourd'hui, c'est une joie parce qu'on a beaucoup de petits-enfants. On a même un certain nombre d'arrière-petits-enfants. Il y en a un qui est en route et un de plus. Et d'abord, tout le monde s'entend très, très bien et puis que c'est tout de même la joie de vivre d'avoir des enfants. De voir que la France, justement, aujourd'hui, est tellement le sens de la famille et qu'on fasse beaucoup de choses. Quelquefois, on pousse un petit peu, même on trouve qu'en France, on en fait trop, que ça coûte très cher, etc. Ça, ce n'est pas les Français, en général, qui pensent ça. Je crois qu'il y a là une marque importante de la bonne santé de notre pays sur beaucoup de points. Voilà, on se critique beaucoup, mais qu'en définitive, quand on va chez les autres, c'est souvent moins bien. Enfin, je trouve que cette volonté qu'on a eue, même justement, des gens comme moi, au retour des déportations, de penser qu'il fallait se réconcilier avec les Allemands, je trouve aussi que cette place donnée à la famille est très, très importante, même si les gens ne sont pas mariés. Je trouve qu'il y a un équilibre de vie, et ce qui me soucie le plus aujourd'hui, c'est qu'il y ait des gens qui encore... Enfin, dans les banlieues difficiles, des situations...
Vous avez eu ce contact avec le terrain des banlieues, vous en parlez, beaucoup. Marseille, oui. Je crois.
Oui, j'ai été à Marseille.
Et puis vous parlez de la Guadeloupe aussi.
Oui, le maire de Marseille me disait, oh, écoutez, il y a des mouvements quand même, il n'y allait pas. J'ai eu ça d'ailleurs aussi à la Guadeloupe. Et il me dit, n'y allez pas, vous risquez de, etc. J'ai dit, si, je suis venue. Les gens m'ont invité chez eux, enfin, etc. Je crois qu'il y a des regards différents, mais j'étais à plusieurs reprises comme ça, où la police a toujours un peu peur, vous allez être bousculé, les choses se passent bien.
Vous l'expliquez comment? Quand on vient avec un esprit d'ouverture, un esprit de communication, les choses se passent et... Je veux dire, même dans les quartiers les plus difficiles ou les quartiers chauds.
Oui, j'ai été beaucoup dans les quartiers de banlieue plus récemment, alors effectivement.
Cela a pris une autre allure, vous pensez, une autre conjoncture?
Je pense, si vous voulez, que les écarts de situation sont tellement grands et puis de très grandes difficultés pour des jeunes. Aujourd'hui, c'est là où les choses ont changé, c'est que nous avions beaucoup moins qu'aujourd'hui des difficultés pour les jeunes de trouver des situations. Ça, c'est une... Et puis, ils ne sont pas toujours bien préparés, ils n'ont pas toujours non plus... la possibilité donc de trouver un job.
Il faut canaliser toute leur énergie et leur donner la possibilité de s'épanouir.
Oui, mais c'est difficile et puis sont souvent les familles sont en difficulté. C'est là où on voit que dans la situation économique est meilleure, les choses sont plus faciles à gérer.
En évoquant votre famille maternelle et paternelle dans votre livre Une vie paru chez Stock, vous écrivez. Tout ce petit monde était foncièrement républicain et laïque du côté de ma mère comme de celui de mon père qui était à cet égard sans complaisance. J'ai souvenir d'un épisode survenu alors que j'avais 8 ou 9 ans. Une cousine italienne de passage à la maison avait pris l'initiative de m'entraîner avec elle dans une synagogue. Lorsque papa l'a pris, il prévint la cousine. En cas de récidive, elle n'aurait plus accès à la maison. Très simplement, nous étions juifs et laïcs et n'en faisions pas de mystère. Au jardin d'enfants, une condisciple de 4 ou 5 ans m'avait mise en larmes en m'assurant que ma mère brûlerait en enfer puisque nous étions juifs. Cependant, j'ignorais tout de la religion.
Je dirais que là, cette observation, surtout si petite, enfin vraiment, je revois encore l'endroit où c'était, dans la cour des petits, au lycée de Nice. Ça m'a évidemment marqué, mais pas profondément, si vous voulez, sur le moment, mais c'est tout. Mais c'est vrai, par exemple, que quand nous étions en 7e ou au lycée, il y avait des discussions politiques dures déjà. Enfin, moi, comme on ne parlait jamais politique à la maison, ça n'était pas le cas. Mais tout de même, par exemple, quand je vous parlais de la synagogue et de la laïcité, je me souviens que mon père avait été furieux de savoir qu'une de nos cousines de passage, qui, elle, était pieuse, m'avait emmenée à la synagogue. Parce qu'il était très attaché à ce qu'il était, à ce qu'il était juif. Mais pour lui, c'était avant tout, c'était une culture. Il estimait que la place de la culture dans la vie était très importante par tradition. Et c'est vrai que lui-même a toujours été laïque, que ses parents étaient laïcs depuis très longtemps et que c'était une chose très importante.
Et puis, il y a aussi l'épisode amusant de la choucroute à l'occasion de l'exposition universelle. Vous écrivez, en 1937, visitant à Paris l'exposition universelle, nous sommes allés déjeuner dans un restaurant où nous avions gaillardement commandé une choucroute. Lorsque les cousins chez qui nous séjournions l'ont appris, ils se sont écriés « Mais vous vous rendez compte, manger une choucroute et le jour de Kippour, en plus ?» De cet épisode date le début de mon apprentissage des coutumes juives. Je reconnais sans la moindre honte qu'il est resté très modeste. Pour autant, mon appartenance à la communauté juive ne m'a jamais fait de problème. Elle était hautement revendiquée par mon père, non pour des raisons religieuses, mais culturelles. À ses yeux, si le peuple juif demeurait le peuple élu, c'est parce qu'il était celui du livre, le peuple de la pensée et de l'écriture. Et vous avez poursuivi cette tradition paternelle en gardant quelques distances par rapport à cette tradition juive.
Je vais vous dire, les choses ont changé du fait de notre déportation. C'est-à-dire que même moi, je ne suis pas du tout religieuse, pas du tout. Je suis tout à fait, c'est vrai que je suis tout à fait laïque. Mais qu'en même temps, maintenant, quand il y a des manifestations, par exemple, à la synagogue, elles ont un double sens. Je suis sûre que parmi les gens qui sont là, nous sommes très nombreux à ne pas être religieux. Il y a 2 jours, j'ai enregistré une chose pour dimanche prochain, qui sera lue à la synagogue, dans laquelle je ne parle pas du tout de religion, mais uniquement de la déportation et de l'espoir que nous avons que ça ne se renouvelle pas. Mais la synagogue, moi j'y vais, je crois que comme beaucoup de gens qui y vont, moi j'y vais pas du tout régulièrement, mais je crois que nous y allons parce que c'est un lieu où nous sommes ensemble. Pour nous, on se dit qu'on appartient tout de même à la synagogue.